C'est une occasion absolument merveilleuse cette fin de semaine. Or, si on recule 70 ans, dimanche prochain, ça fera 70 ans que cette Église existe par la grâce de Dieu, que Dieu a implanté cette famille qui a grandi, qui a essaimé. Mais dans sa grâce, il a dit « Je bâtirai mon Église » et il a bâti celle-ci il y a 70 ans. Gloire à Dieu pour cela. Le verset sur lequel cette Église a été fondée se trouve dans Romains chapitre 1 et verset 16. Lisons-le ensemble, s'il vous plaît. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Et William-Henri Frey a sa tombe dans le cimetière de l'Est, et sur sa tombe, il y a ce verset-là. Et dit-on que c'était le premier verset sur lequel il a prêché le 13 septembre ou le deuxième dimanche de septembre 1956. On va découper ce verset-là en quelques parties. D'abord, le mot « évangile ». Alors, c'est quoi l'évangile? To-eu-angelion. « Eu » veut dire « bonne » et « angelion » « nouvelle » du mot « angelos » qui veut dire « ange » ou « envoyé ». Donc, c'est un message, ça devient un envoyé pour une commission, ça devient un envoyé avec un message à livrer, et le verbe « euangelizomai » « annoncer la bonne nouvelle ». C'est une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, par grâce et par la foi. Acte 14, 21, nous aurons plus de détails sur cela demain, mais regardez bien, si vous avez votre Bible, ce que les chrétiens faisaient, et ce n'était pas des professionnels, ce n'était pas des pasteurs, c'était des chrétiens. Nous trouvons dans Acte 14 et verset 21, comment ça se faisait dans le premier siècle et comment ça devrait encore se faire dans notre siècle à nous. Acte 14 et verset 21. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, voilà l'activité, et au verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, vous savez quoi? Je pense que je me suis trompé de chapitre. Ça arrive. Parce qu'ici, c'est l'apôtre Paul. Je parle de la création de cette église-là. Et nous en sommes à Antioche. Et puisque je ne le trouve pas, je vais simplement par mémoire dire que c'est dans ces trois versets-là, 21, 22, 25, il s'agit d'annoncer la parole. Ils ont parlé à leurs voisins. Ils ont été en train de témoigner de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons quand nous commençons une église, c'est ce que nous faisons quand une église est à ses débuts, quand une église est à ses progrès et quand une église est affermie, tout le temps. Voulez-vous me dire l'évangile en 5 mots, s'il vous plaît? Christ est mort pour mes péchés. Encore une fois, c'est quoi l'évangile en 5 mots? Christ est mort pour mes péchés. Maintenant, je vais y mettre ma petite touche là-dedans. Christ est mort pour mes péchés. Je suis un homme pardonné. C'est l'évangile. Et j'ai besoin de cet évangile-là tous les jours de ma vie. L'Église a besoin de l'évangile. Pas seulement les inconvertis. L'évangile en 5 mots, non, on va rester. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Wow! Autrement, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. voulais enseigner avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que... Alors, il dit le mot évangile au début, et maintenant, il va le dire au verset 3, c'est quoi? Christ est mort pour nos péchés. C'est pas compliqué, mais c'est la chose la plus compliquée au monde. Tous les êtres humains viennent dans ce monde pensant qu'ils vont gagner leur ciel, et ils s'accrochent après une religion, après l'autre, pour essayer, si tu es musulman, tu vas garder les cinq piliers de l'islam. Si tu es hindou, tu vas sacrifier une poule à tous les coins de rue. Si tu es catholique, tu vas garder les sept sacrements. Si tu es évangélique et que tu n'es pas encore sauvé, tu crois que tu vas être un bon garçon. Tout le monde pense que c'est par ses efforts. Mais l'évangile, c'est Christ est mort pour mes péchés, parce que le salut vient du ciel. Il vient d'en haut, il ne vient pas de nous. Ça, c'est l'évangile. En 10 mots, on peut rajouter la résurrection. Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors, maintenant, je n'ai point honte. Honte, ou on l'a vu dans, en bon créole, want ou honte. Ça fait un coup rouge, ça fait dresser les poils sur le cou. Honte. Quand on se fait prendre, on a honte. Il y a une honte qui est une gêne aussi. Et souvent, les chrétiens sont gênés de parler de l'Évangile. Je me rappelle que ma mère donnait des traités à tous les fois qu'on faisait le plein de l'essence. Et puis nous, les enfants, la connaît pas. Oh non, elle va encore en parler. Mais l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Et c'est le Saint-Esprit qui le guide à utiliser la première personne du singulier, je n'ai point honte. Et il est un apôtre éloquent, parce qu'il a mis en pratique, il y a peu de bâtisseurs d'église comme lui. Je vous fais grâce de la lecture. Il y en a 10 qui sont répertoriés, et un autre environ 10 qu'on peut estimer qu'il a commencé. Donc, je vous fais grâce de la lecture, mais recherchez-le. Il n'a pas honte de l'Évangile. Il a commencé les églises, il a témoigné, et il en a souffert aussi. Next. Alors, il a été un homme courageux qui n'a pas eu honte. J'ai été souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et dans 2 Corinthiens 11, 23 à 27, « Pourtant, après la lapidation de Lystre... » Ah non, ça c'est le commentaire. « Pourtant, après la lapidation de Lystre, il se relève, repart pour annoncer Christ, et il sait qu'il ira à Jérusalem. » Et pour lui, ça signifie les chaînes et la tribulation. Il le sait d'avance, même qu'il y a un prophète qui le lui dit. Mais il y va pareil. C'est la volonté de Dieu qu'il aille là et qu'ensuite, il aille jusqu'à Rome. Et à cause de cette connaissance, au lieu de reculer puis d'avoir honte, il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. À son instar, chacun de nous est appelé à avoir courage, à ne pas avoir honte de l'Évangile. Tu auras la vie éternelle, chrétien, à cause de l'Évangile. N'aie pas honte de cela. Parle-en à tous autour de toi. Le Saint-Esprit nous incite à avoir le même courage que Paul pour partager la bonne nouvelle. On est appelé à ne pas avoir honte, de surmonter notre gêne, de surmonter notre léthargie, l'indifférence. Peut-être que vous direz, ben, c'est pas que j'ai honte, c'est que j'ai d'autres affaires à faire. N'ayons pas honte, ayons le courage. Et parfois, on a honte parce qu'on n'est pas confiant de ce qu'on va dire. Donc, c'est là que l'évangélisation explosive peut aider. La grâce, t'es pécheur, Dieu est juste, mais Dieu est amour, Christ est mort pour toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'Évangile sur le bout des doigts. Demandez à Mauricio de faire un cours à Rosemont pour l'Évangile sur le bout des doigts. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Alors, c'est l'Évangile qui sauve. C'est pas une église, c'est pas des parents, c'est pas des programmes, mais la bonne nouvelle que Jésus est mort pour tes péchés. C'est pas les bonnes œuvres, c'est pas les intentions, c'est pas le ritualisme, les visions, les guérisons, les miracles. Toutes ces choses ont leur place et ça ne sauve pas. C'est pas l'église, c'est pas le baptême, les traditions, l'ascétisme, les jeûnes, les neuvaines, les pèlerinages. Ce n'est pas le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, ni les églises évangéliques ou baptistes. C'est pas ça qui sauve. C'est le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous réconcilier au Dieu juste et saint. L'Évangile seul sauve. C'est la puissance, la dynamis de Dieu pour le salut. Next. Alors, le 1 Pierre 1:23 nous dit, « Vous avez été régénérés. Mes parents m'ont nommé René. » Merci Seigneur. Et à l'âge de 8 ans, le 16 avril 1956, bonne année, en avril, j'acceptais le Seigneur Jésus-Christ, puis au mois d'août, on venait à Montréal. Et mon père débutait les prédications le 13 septembre, ou le deuxième dimanche du mois de septembre. Et c'est basé sur la régénération, et la régénération est basée sur l'Évangile qui sauve. L'Évangile qu'on doit prêcher, l'Évangile qu'on doit recevoir, l'Évangile qu'on doit vivre. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Next. C'est l'Évangile qui sauve de trois choses. Du poids du péché, de la puissance du péché et de la présence même, ultimement, du péché. Alors d'abord, il sauve du poids du péché ou la culpabilité. Dans Romains 8, 1, il n'y a donc qu'en maintenant! OK, il est 8h30. C'est bon que je regarde ma montre parce qu'on m'a dit moins quart et au plus tard 9h. Mais c'est maintenant que je n'ai plus aucune condamnation. Et souvent, on vit la condamnation longtemps. On se demande, ah, il va falloir que je fasse de la pénitence, là. C'est maintenant qu'il n'y a aucune condamnation. Il y a une fontaine de pardon à la croix de Jésus-Christ. Il pardonne plus que 70 fois 7. Il pardonne à chaque fois qu'on est pécheur. Et on est pécheur à tout âge. Quel âge que tu as avec les lunettes, s'il te plaît?
12? Merci, Jacob.
À 12 ans, on peut pécher. À 8 ans, je savais que j'étais voleur, menteur, désobéissant. Et il s'agit de venir à Jésus-Christ et de recevoir le bénéfice de son salut. C'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vivons libres. Et dans Colossiens 2, 13, Dieu vous a fait revivre avec lui en nous pardonnant toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Effacé, il l'a jeté au fond de la mer. Ça n'existe plus. Et il ne dit pas, « Ben moi, je pardonne, mais j'oublie pas. » Non, il n'est pas comme ça. Il pardonne et il n'y pense plus. Il l'oublie. Il l'efface. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il y en a un qui est mort pour le péché, c'est Jésus-Christ. Il ne va pas faire une double rétribution puis te faire payer toi aussi. Alors, nous sommes libres. Romains 5, 9, a plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Pas par son exemple seulement, pas par ses bons enseignements, ça c'est la théologie libérale. Nous sommes sauvés par son sang, il fallait qu'il meure. Et ainsi, en lui, nous sommes morts aussi à tous ces péchés-là. Nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. Oui, prochain. Ça nous sauve de la puissance du péché. Pour tous ceux ici qui luttent contre le péché, dont moi, c'est par l'Évangile que nous sommes sauvés et c'est par l'Évangile que nous sommes sanctifiés jour après jour. Retournons à la croix souvent. Ah, cette croix qui est là pour nous rappeler qu'il pardonne une première fois. L'apôtre Pierre ne veut pas se faire laver les pieds, mais Jésus lui dit, écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu ne fais pas partie avec nous. OK, lave-moi tout le corps alors. Non, c'est correct. Ça a déjà eu lieu. Alors, nous sommes sauvés une première fois lors de notre conversion et c'est complet. Il n'y a pas de cette histoire, oh, ben, si je meurs sans confesser mes péchés, alors qu'est-ce qui va m'arriver? Non, non. Tu es lavé par ta foi, tu es couvert pour le temps et l'éternité. Mais en plus, le Seigneur voudrait que tu confesses ton péché pour avoir cette magnifique joie, communion qu'on n'a pas lorsqu'on a sur la conscience une colère quelconque, une jalousie, un péché. Ainsi, nous sommes appelés, selon 1 Jean 1,9, à ne pas dire « je n'ai pas de péché », mais à avouer que nous sommes pécheurs et les confesser. Et il est fidèle et juste pour nous les toute iniquité. Donc, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est la sanctification de l'Esprit. C'est comme ça que je serai sanctifié. Ce n'est pas moi tout seul qui va faire la sanctification par des bonnes résolutions, et ce n'est pas le Saint-Esprit tout seul qui va le faire à ma place, c'est Romains 8, 13. « Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est par l'Esprit, je dois le faire. Par lui, ensemble. C'est une opération conjointe. C'est déjà fait pour que mon dossier soit net dans le livre de vie, à la croix par Jésus-Christ, mais maintenant, dans le quotidien, ma sanctification se fait par l'Esprit. Tout ça, ça fait partie de l'Évangile. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Et j'ai rajouté « en train d'être ». C'est dans le grec, vérifiez-le, ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Mais il a amené à la perfection. C'est les deux qui sont ensemble dans le même verset. Magnifique étude à faire là-dessus, mais on n'a pas le temps. Next. Alors, la présence du péché sera plus là. Le péché ne sera plus là. Mais ça, c'est dans l'avenir. Et ça nous sanctifie déjà maintenant de savoir qu'il y aura un moment quand nous irons avec le Seigneur. Et alors, il n'y aura plus de présence du péché. Wow, c'est difficile à imaginer cela. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Next. Alors, il y a le quiconque croit. Next. Et ça, c'est quiconque, et ça veut dire quiconque. Mais je ne sais pas qui sont les quiconques, et tu ne sais pas qui sont les quiconques, alors il faut qu'on parle à quiconque, à tous. Parce que Dieu a un nombre restreint d'élus. On n'a pas le temps d'entrer dans ce sujet-là, mais vraiment, l'élection est inconditionnelle. Il a une liste et il va les sauver par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Mais de notre point de vue, quiconque veut s'approcher de lui peut avoir le salut. Si quelqu'un s'approche, c'est parce que Dieu a travaillé dans son cœur et lui a donné la foi, le goût d'être pardonné, de se tourner vers la vraie solution qui est en Jésus-Christ. Le salut n'est pas donné à tous, mais à ceux seuls qui croient. Croire, c'est transférer sa confiance de soi-même en Jésus-Christ. Quiconque veut dire quiconque, mais la foi est un don de Dieu. Et croire en Christ, croire à l'Évangile, ça, c'est ça qui nous qualifie pour le salut. Et c'est toujours accompagné de repentir. Il ne faut jamais dire simplement « crois et tu seras sauvé seul ». Oui, mais ça implique la repentance dont il est question dans tellement de versets dans le Nouveau Testament. Croire et se repentir. Next. Du juif premièrement, puis du grec. Alors Dieu est le Dieu de toutes les nations et l'Évangile est pour toutes les nations. Et Dieu a une élection parmi son ancien peuple. Il a un seul olivier et sur cet olivier, qui est Jésus-Christ, c'est le cep. Il va greffer des branches qui avaient été coupées, des juifs, va les remettre sur l'olivier et il va prendre des branches des Lingala, des Kabyles, des Suisses, des Québécois, des Haïtiens et de tout autre nation qui peut se trouver ici ce soir. S'il vous plaît, next. L'Évangile, c'est pour tous, et c'est même, comme je l'ai dit tantôt, pour nous les chrétiens. J'en ai besoin tous les jours de l'Évangile, matin et soir. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Et si tu regardes Romains 1, 15, qui vient juste avant Romains 1, 16, il dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Donc, c'est clair que c'est une doctrine biblique de prêcher l'Évangile. C'est pas comme tu viens à Jésus-Christ, puis là, « OK, je connais l'Évangile. Maintenant, je veux vraiment les sujets, la viande de la vie chrétienne, l'eschatologie ou whatever. » Non, c'est vraiment l'Évangile dont tu as besoin au début, au milieu et à la fin. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et c'est le verset fondamental de l'Église de Rosemont et de l'Église d'Anjou et de nous tous individuellement. Dieu reste fidèle à son Évangile. Ça n'a pas changé en 2000 ans. C'est l'Évangile qui sauve. Alors, Dieu est fidèle à son Évangile et il est fidèle à l'Église de Rosemont. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Il l'a promis et il l'a fait. Et nous en sommes témoins ce soir. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et Dieu est fidèle. Regardez cette belle promesse. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. » Ce n'est pas juste 70 ans, là, 70 ans, là. Jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous dites, non, mais ça, c'est une promesse à l'individu. Et moi, pas. Paul le décrit à l'Église de... C'est une Église, c'est une corporation, et c'est à eux tous qu'il donne cette belle promesse. Dieu est fidèle à l'Église. Il est fidèle à son Église. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui l'accomplira. Et donc, votre Dieu, notre Père, merci pour ces 70 ans que nous fêtons. Et c'est incroyable, cette décennie, tu es fidèle dans les débuts de l'Église, tu es fidèle dans les années mitoyennes, tu es fidèle dans la dernière période. Et tu resteras fidèle, Seigneur. Béni sois-tu pour ta grande fidélité ces 70 ans. Au nom de Jésus-Christ. Amen.